Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, 2017, qui veut la peau des petits candidats ? Le record établi en 2002 sera-t-il battu en 2017 ? Il y a 14 ans, ils étaient 16 à se présenter au premier tour de la présidentielle. Combien seront-ils l'an prochain ? Les candidats déclarés, en tout cas, sont déjà nombreux. Ces derniers jours, Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan se sont lancés. Ils rejoignent Jean-Luc Mélenchon, les concurrents de la primaire Les Républicains, le Polynésien Oscar Temaru, le maire de Carré, Christian Troadec, ou encore un certain Jean-Pierre Méliat, un ingénieur à la retraite, et la liste n'est pas exhaustive. Alors, tous n'obtiendront pas les parrainages nécessaires pour se présenter devant les électeurs, d'autant que l'an prochain, la procédure va évoluer. Une proposition de loi en cours de discussion au Parlement prévoit de publier l'intégralité des parrainages reçus au nom de la transparence, mais les petits candidats y voient avant tout une manœuvre visant à les écarter du sprint final. Ce n'est d'ailleurs pas la seule disposition de cette proposition de loi qui leur pose problème. Le texte entend aussi modifier les règles imposées à l'audiovisuel en matière d'égalité de temps d'antenne. Pour faire simple, l'égalité aujourd'hui court sur 5 semaines jusqu'au premier tour, et bien elle serait ramenée à 2 semaines. À la place, un principe d'équité beaucoup moins contraignant pour les médias. Alors doucement mais sûrement, les opposants à cette loi de modernisation des règles de la présidentielle s'organisent. 2 pétitions ont été lancées au nom de la défense d'une élection ouverte au plus grand nombre. Alors 2017, qui veut la peau des petits candidats ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter ce soir, Elisabeth Pochon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes membre de la commission des lois, vous êtes la rapporteure à l'Assemblée nationale de cette proposition de loi de modification des règles applicables à l'élection présidentielle. Le texte était d'ailleurs aujourd'hui en discussion au Sénat. D'après les dépêches AFP, c'est un texte qui a été retoqué, mais c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot mardi prochain, c'est bien ça ?
Oui, il y a un vote à l'Assemblée nationale mardi prochain. D'une loi organique qui nécessite qu'il y ait la majorité de l'ensemble des députés, c'est-à-dire 288 voix pour la PPL organique. Voilà.
Ce qui veut dire qu'il faudra qu'il y ait l'ensemble des voix socialistes et quelques-unes supplémentaires.
Voilà.
Ce qui veut dire quoi, le vote n'est pas totalement acquis. Pour discuter avec vous ce soir, Jacques Cheminade, bonsoir.
Bonsoir.
Président et fondateur du parti Solidarité et Progrès, parti qui plaide en particulier pour une refonte du système financier international. Vous avez été 2 fois candidat à la présidentielle. La première fois, c'est en 1995. Vous aviez obtenu 0,28% des voix. La dernière fois, c'était en 2012, avec 0,25% des voix. La première question que je veux vous poser, avant d'entamer la discussion, c'est évidemment, est-ce que vous êtes candidat pour la présidentielle de 2017 ?
À ce stade, je n'ai aucun appétit de pouvoir. Mais si je vois ce qui est fait actuellement par la droite et par la gauche, je serais tenté, et puis que M. Urvoas m'a mis en cause nommément, accroît ma tentation.
Bon, donc vous serez candidat à la présidentielle
non.
de 2017.
Ah non. Non, pas encore.
Bon, on verra en tout cas.
En son du moment.
Bon. Tant pis, on n'aura pas ce soir sur France Culture. Troisième invité, Stéphane Rosès, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous êtes le président de CAP, Conseil Analyse et Perspective, enseignant à Sciences Po et HEC, observateur de cette passion pour la présidentielle qui gagne le pays tous les 5 ans, même un petit peu plus hein, d'ailleurs, puisque c'est en 2017, mais déjà on sent bien que la passion est là. Alors, je voudrais d'abord voir avec vous si vous considérez les uns et les autres que les règles actuelles de la présidentielle, les règles pour permettre à des candidats de se présenter et de se présenter notamment à leurs électeurs via les médias de l'audiovisuel sont des règles qui sont correctes ou bien qui méritaient d'être modifiées. Elisabeth Pochon.
En fait, après chaque élection présidentielle, il y a toujours des autorités qui ont suivi ces élections qui préconisent des modifications pour l'amélioration. Et puis, on le fait pas juste après l'élection présidentielle. Et quand c'est le moment de s'y pencher, là remonte immédiatement la suspicion, l'idée que c'est un camp qui va vouloir modifier des règles pour lui-même ou pour privilégier un autre camp. Je pense que On ne trouve, enfin, il y a actuellement quand même des choses qui changent énormément dans notre société au niveau des communications, etc., qui nécessitent que l'on puisse adapter des règles à l'évolution d'un monde. Il y a aussi, je crois, enfin, de toute façon, dans ces règles, il y avait déjà des toilettages obligatoires du fait que nous avons modifié des formes de scrutin, et que, par exemple, les parrainages nécessitaient qu'il y ait un toilettage pour qu'il y ait des présidents de nouvelles métropoles, pour qu'il y ait de nouveaux parrains qui soient désignés, pour modifier des choses techniques. Donc un toilettage était nécessaire.
Alors sans évoquer ce qu'il y a justement dans ce toilettage qui est proposé dans la proposition de loi, Jacques Cheminade, mais est-ce que vous partagez le point de vue d'Elisabeth Pochon pour dire oui, il y a un toilettage nécessaire, ne serait-ce que parce que voilà, la vie politique évolue et donc il faut bien que les règles évoluent en même temps.
En particulier quelque chose dont personne ne parle, qui est un dérapage insidieux dans cette présidentielle. Par la loi du 6 novembre 1962, on prévoyait à l'époque 1 million de francs pour les candidats ayant obtenu 100 parrainages, une avance de l'État. Bon, maintenant 500 parrainages, je suis d'accord, il fallait passer de 100 à 500, c'est bien. Mais le million de francs est devenu 150 000 euros. Ça n'a plus rien à voir avec ce que représentait 1 million de francs en 1962. Pourquoi est-ce qu'on avançait 1 million de francs ? Pour que chaque candidat, et les moins pourvus financièrement, soit, disons, dans une situation de meilleur pour affronter ce qui était mieux pourvu. Donc il y avait cette avance d'un million de francs. Aujourd'hui, 150 000 euros, si c'était en pouvoir d'achat le million de francs de 1962, eh bien ça devrait être environ 1 million d'euros, peut-être 1 million et demi.
Donc qu'est-ce que vous dites, Jacques Cheminade ? Vous dites que c'est normal que les règles finalement évoluent.
Celle-là est tout à fait anormale.
Est-ce que vous considérez en tout cas que...
Bien dit.
Voilà, justement, alors est-ce que vous considérez que les règles actuelles, faisons encore un instant abstraction de cette proposition de loi, est-ce que vous considérez que les règles actuelles qui vous ont permis de vous présenter à la présidentielle en 2012 sont des règles qui sont bonnes ou bien qui devraient quand même être un peu révisées ?
Mais sans les moyens financiers.
Oui, mais alors répondez à ma question du coup.
De faire les choses. Elles sont, disons, plus acceptables que dans les législatives où si on n'a pas 5% des voix, ben on doit payer. Et seulement les partis en place peuvent avoir le remboursement directement par la préfecture, puisqu'ils subrogent l'imprimeur auprès de la préfecture.
Stéphane Rosès, cette discussion sur les règles de la présidentielle, les parrainages, l'exposition médiatique des candidats, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis l'origine de cette présidentielle au suffrage universel ?
Oui, la nouveauté peut-être, c'est au fil des années l'accroissement de la crise du rapport entre les Français et leur représentation politique. Hein. C'est pas la crise de la démocratie elle-même. Les Français sont démocrates, mais ils ont le sentiment que dans l'écart entre le personnel politique, dont le président de la République était évidemment la voûte, l'incarnation, la symbolique première, eh bien, il y aurait un insuffisant renouvellement du personnel politique, un personnel politique qui ne comprendrait pas suffisamment les problèmes des Français. Alors, nonobstant le fait de savoir si leur perception est juste, si c'est ça le sujet, je ne crois pas personnellement que ça soit exactement ça, ce qui veut dire que, néanmoins, ils ne verraient pas d'un bon œil l'idée qu'il ne puisse pas y avoir renouvellement par, justement, les petits candidats. Et en même temps, la crise morale, économique, sociale, fait que on ne veut pas non plus que la présidentielle soit dévaluée, dévalorisée par des candidats qui ne représentent pas un courant de pensée, donc par des candidatures qui seraient des candidatures exotiques, baroques. Donc tout est affaire finalement d'équilibre.
Est-ce que vous diriez, Stéphane Rosès, que les règles de la présidentielle doivent permettre ce renouvellement, doivent même le produire, ce renouvellement, ou bien
les règles de la présidentielle doivent permettre effectivement à des personnalités ou à des sensibilités qui représenteraient quelque chose dans le pays de pouvoir effectivement s'exprimer. J'ai en tête par exemple des découvertes qui peuvent avoir lieu lors de campagnes. Par exemple, Olivier Besancenot, très clairement à l'extrême gauche, a bénéficié de règles qui fait que tout d'un coup il y avait une personnalité qui représentait une génération, une forme de sensibilité un peu différente de l'extrême gauche traditionnelle. traditionnel qui a fait que a pu émerger un temps cette figure. Il y en a eu d'autres dans le passé, évidemment.
Elisabeth Pochon.
Oui, je partage complètement le point de vue de M. Rosès. C'est une histoire d'équilibre. Je ne vois pas en quoi les dispositions que nous prenons dans cette loi sont de nature à empêcher des personnes de pouvoir venir s'exprimer et rechercher la candidature. C'est pas le système des parrainages n'a pas été transformé. On n'a pas touché à quelque chose d'aussi fondamental qui consiste simplement à dire que au lieu que ce soit le candidat qui apporte son document, ça sera envoyé par le parrain avec la suspicion que le parrain ne le fasse pas. Enfin, je crois que c'est quand même un petit peu abusif. Les règles sont plus précisées parce qu'il y a quand même eu des dérives et que l'élection présidentielle, c'est pas le grand cirque non plus. Donc on peut pas avoir affaire non plus à des candidatures, l'Uberlue, etc. C'est important pour les Français.
Sur cette question, alors justement, sur cette question des parrainages, aujourd'hui, donc il faut avoir 500 parrainages d'élus avec une répartition selon les départements.
Oui, plusieurs départements.
Parrainages collectés par le candidat, qui les dépose au Conseil constitutionnel et les
aujourd'hui pas.
Aujourd'hui. Non, je ne parle pas encore de la proposition de loi. Ouais. Et ces parrainages sont tirés au sort et ceux qui sont tirés au sort sont publiés. Dans la proposition de loi dont vous êtes la rapporteure à l'Assemblée nationale, Elisabeth Pochon, l'idée c'est que ce sont les élus, les parrains, adressent directement leur parrainage au Conseil constitutionnel et que tous les parrainages sont publiés. Simplement, expliquez-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces modifications-là? Au nom de quoi?
Alors, je pense que ces modifications sont liées à une instrumentalisation qui a eu lieu par le passé de cette course au parrainage, qui était, la victimisation qui permettait finalement aux candidats, de laisser croire qu'ils n'arriveraient jamais aux 500 parrainages.
Pareil avec les modifications, non?
Non, pas du tout, parce que la publication elle va se faire au minimum deux fois par semaine, au fil de l'eau. Les candidats eux-mêmes étant renseignés par le Conseil constitutionnel absolument en temps réel, tous les jours par le Conseil constitutionnel. Donc pour eux, il n'y a aucun risque dans leur comptage, ils savent où ils en sont, etc. Par contre, je crois qu'il a fallu aussi protéger parfois les maires des communes rurales, d'actions qui étaient quand même un petit peu difficiles. Et que c'était une façon de faire.
Il y a des pressions, voire du chantage.
Voilà, des pressions. Il y en a même parfois qui proposaient de vendre, d'acheter des parrainages. Il y en a qui proposaient de les tirer dans un chapeau. Il y en a, enfin voilà. C'était un petit peu ce genre de pratiques qui ont été, on a trouvé une situation simple qui est la situation de la transparence. Il faut aussi que les Français se disent, on peut donner son parrainage. C'est pas donner un vote, donner un parrainage. C'est accorder le droit à quelqu'un de participer à quelque chose, c'est
Jacques
pas un vote.
Jacques Cheminade, pourquoi est-ce que ce nouveau système de parrainage plus transparent vous pose problème? Alors quand je dis vous, c'est pas seulement à vous Jacques Cheminade, mais c'est un certain nombre de candidats, d'ailleurs la présidentielle, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan par exemple, se sont aussi insurgés contre ces nouvelles règles. Mais pourquoi c'est problématique?
Le parrainage, c'est le parrainage du maire. Et on ne doit pas lui dire tout ce qu'il doit faire, on ne doit pas l'infantiliser, il faut aller à la poste, on lui dirait même presque à quelle heure. Et on donne un monopole à la poste, qui est une institution, qui est une société anonyme. Les socialistes se sont battus pour qu'elle ne le soit pas. Aujourd'hui, il lui donne un monopole, je comprends mal. Et ensuite, il y a quelque chose de très important aussi, c'est ce qui fera foi, c'est la date d'arrivée au Conseil constitutionnel. Et ça ne sera pas la date dans laquelle l'envoi a lieu, comme pour les impôts. Les gens ne le savent pas. Donc ça peut créer un problème. Et enfin, surtout, la publication des parrainages. Moi, je suis pour. Mais je ne suis pas pour qu'on les publie deux fois par semaine au fur et à mesure de leur arrivage. C'est invraisemblable dans toute élection. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut mettre en élection dans cette loi. Et je suis pour celle-là, pour cette mesure-là, que tout le monde vote à 19h. Pour qu'il n'y ait pas à 18h une influence sur ceux qui votent à 19h. Là, on publiera les parrainages et on peut avoir une influence poussée par les médias, poussée par la presse, sur ceux qui n'ont pas encore signé par rapport à ceux qui ont déjà signé.
Mais est-ce que ça veut dire pour vous, par exemple, Jacques Cheminade, vous craignez que certains élus locaux rechignent davantage qu'auparavant à apporter leur parrainage parce qu'ils n'auront peut-être pas envie qu'on voit leur soutien, enfin en tout cas leur parrainage affiché en temps réel. D'ailleurs, un parrainage, ce n'est pas forcément un soutien, mais que là, en tout cas, ça soit assimilé donner un soutien.
Moi, je suis pour un affichage, soit au début de la campagne officielle, puisqu'il y a cette sorte d'hypocrisie que la campagne officielle ne dure que 15 jours. Elle dure beaucoup plus, en réalité, la vraie campagne. Ou au moment où le Conseil constitutionnel choisit les candidats. À ce moment-là, oui, il faut que les parrains le disent et il faut qu'ils soient publics.
Mais
j'aime pas le mot parrain,
fait.
D'ailleurs, parce qu'on fait allusion à quelque chose qui est contraire à l'idée de laïcité. Ça devrait être ceux qui ont déclaré une candidature.
Oui, ce sont qui présentent.
Stéphane Rosès, sur cette question des parrainages.
Oui, la question des parrainages, on le sait, c'est ça le principal condition, c'est la condition d'accès à la présidentielle, et c'est par cette variation qu'on justement on essaye de trouver le bon équilibre. Alors, sur les effets proposés là en ce moment. Clairement, il me semble que ça va défavoriser les petits candidats. Alors, j'entends ce qui est dit à juste titre, de dire qu'il s'agit d'éloigner les candidats exotiques. Mais rappelons plusieurs choses. La première, quand un maire donne sa signature, ça ne veut pas dire qu'il soutient forcément la formation politique. Ça veut dire que l'idée qu'il se fait de l'intérêt général fait qu'il pense... nonobstant, je dirais, la personnalité des personnes qui viennent le démarcher, que cette personne mérite, parce qu'elle représente quelque chose dans le débat public et l'essai de dégagement d'un intérêt général, cette personne mérite de pouvoir se retrouver devant le peuple souverain. C'est le premier élément. Et donc, du coup, cet aspect d'engrangement risque d'être associé à une sorte de comité de soutien. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne. La seconde raison, c'est que évidemment, il faut bien mesurer que lorsque l'on mène soi-même des campagnes pour recueillir des parrainages, il y a une incertitude. Alors j'entends ce que vous dites, madame, à juste titre, certains ont pu abuser d'une dramatisation. Mais pour les candidats, je dirais, de formation de moyenne importance ou qui veulent émerger de la société civile, il y a quand même une vraie incertitude sur va-t-on avoir les 500 signatures. Et il faut bien comprendre que, me semble-t-il, le dispositif proposé va obliger les petits candidats pour avoir une garantie qu'il n'y aura pas une décote entre ce qu'auront dit ceux qui disaient parrainer, vouloir parrainer, ce qu'ils vont réellement faire, ça va les amener, me semble-t-il, je crois, à déployer plus d'énergie. C'est-à-dire, ils vont se dire, si je veux être certain à l'arrivée que ceux qui se sont engagés vont eux-mêmes remettre les soutiens à temps, ça veut dire qu'en fait, il faut que je vise plutôt 600. Alors que quand c'est engrangé, quand ce sont les militants ou sympathisants eux-mêmes qui recueillent les signatures, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un surplus qui garantirait qu'au total, on aura réellement 500.
Alors, Elisabeth Pochon et ensuite Jacques Cheminade. Elisabeth Pochon.
Oui, de toute façon, on réagit. Regardons les chiffres. Il y a, je pense, 48 000 élus en capacité de présenter des candidats. C'est quand même énorme, 48 000 élus. Je pense qu'il y a cette garantie que le Conseil constitutionnel vous informe au jour le jour. Il y a effectivement le fait que ce soit envoyé par la personne qui vous a promis. Puisque vous dites que les maires sont des personnes responsables et qu'elles ne font pas ça par-dessus comme ça, je veux dire, à partir du moment où il y a une promesse aux candidats, je ne vois pas pourquoi les maires ne tiendraient pas leur promesse. Ou alors... vous suspectez les élus de ne pas tenir les promesses qu'ils ont données.
Oh non, ça m'étonnerait quand même.
Je ne sais pas quel est ce procès qui peut être fait, d'autant que ça n'a... Et dans ce qui était la publicité, il y avait une règle qui consistait à tirer au sort les parrains qui étaient publiés en fin de course et qui faisait qu'avec les probabilités entre ceux qui n'avaient que 500 et ceux qui avaient 2000 parrains, les parrains des petits candidats avaient plus de chances de se retrouver publiés que les autres. Est-ce que c'était aussi une règle extrêmement démocratique? Donc je crois que sur les pressions, il y a beaucoup quand même de fantasmes et sur l'idée quand même que c'est un monde politique où on pourrait être à coup de subventions, à coup de choses comme ça, dans l'idée de vouloir vraiment empêcher les candidats d'émerger.
Jacques Cheminade, candidat à la présidentielle en 95 et en 2000. 2012. Est-ce que dans les démarches qui étaient les votes pour recueillir ces parrainages, est-ce que vous sentiez que certains élus vous les délivraient plus facilement parce que il y avait une confidentialité totale, évidemment, puisqu'il y avait la possibilité d'être publié, mais en tout cas que la publication pouvait être retardée et qu'elle ne se faisait pas, voilà, quasiment en temps réel. Est-ce que ça, c'était
non,
un argument? Est-ce que vous craignez?
Non, publication après que le Conseil constitutionnel ait choisi les candidats qui remplissent les conditions. Et on parlera après du second crible. Hein.
Mais est-ce que
c'est un premier crible.
Bien sûr.
Donc,
mais est-ce que ça veut dire que les élus qui sont susceptibles de vous fournir les parrainages pourraient justement vous les fournir moins facilement à cause de
cette
nouvelle
règle? Alors là,
il y a
quelque chose qui crève les yeux. Le harcèlement, soi-disant, dont a parlé Mathieu Urvoas, ou les pressions, elles ont lieu bien avant, bien en amont. Elles n'ont pas lieu au moment où ils envoient leur parrainage. Là, c'est réglé. C'est bien avant. Et je ne vois pas comment on peut l'empêcher avant. Puisqu'on peut aller voir les maires et que les maires ont leur bureau ouvert. Ils peuvent dire aux candidats, ne venez pas, vous m'ennuyez, ils ne viendront pas. Alors voilà, c'est la personnalité des maires et leur sens de responsabilité qui doit permettre de dire oui ou dire non. Et M. Rosès a tout à fait raison, il s'agit d'une présentation. Il ne s'agit pas d'un parrainage, on n'est pas pour le candidat, on n'est pas, on le soutient pas. Moi, j'ai eu des maires dans des petits villages qui n'ont même pas voté pour moi, mais ils m'ont présenté parce qu'ils pouvaient penser que j'apportais quelque chose d'utile au débat sur notamment la réforme bancaire.
Alors, il est 18h41 sur France Culture. Voilà.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Et la question que nous posons ce soir. 2017, qui veut la peau des petits candidats? Question posée à chaque cheminade, Stéphane Rosès et Elisabeth Pochon. Alors passons à la disposition qui est peut-être celle qui pose le plus de problèmes pour un certain nombre de candidats à la présidentielle. C'est l'article 4, intitulé ainsi « Accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle ». Alors, il y a un principe qui existe, en tout cas qui était celui de l'élection présidentielle de 2012, qui était un principe d'égalité sur les 5 semaines précédant le premier tour. C'est-à-dire tous les médias audiovisuels devaient assurer une stricte égalité entre tous les candidats de ce premier tour. Là, la modification que propose cette proposition de loi, Elisabeth Pochon, c'est de dire on garde le principe de l'égalité dans les 2 semaines qui précèdent, mais par contre, avant et dans les 3 autres semaines donc qui restaient, on a un principe d'équité, c'est-à-dire c'est un peu laissé à l'appréciation des médias pour faire en sorte que chaque candidat ait un temps de parole qui soit à peu près équivalent à ce qu'il est censé représenter dans le paysage politique. Mais est-ce que ça n'est pas une rupture de l'égalité des candidats face à ce scrutin?
Bon, déjà, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle cette période intermédiaire qui est une période de 3 semaines qui précède une période officielle sur lesquelles a été tenté d'avoir une période d'équité du temps de parole, simplement parce qu'il y a des on a tiré les conclusions de ce qui s'était passé dans la précédente élection présidentielle avec des organismes et des autorités qui ont quand même remarqué que l'égalité des temps de parole, même si ce n'est pas une raison suffisante, ont quand même eu des effets néfastes sur la place de la présidentielle dans les médias. Que ce temps d'égalité était si compliqué à mettre en place qu'entre 2007 et 2012, il y a eu moitié moins de temps consacré dans les médias à la présidentielle.
Il y avait même eu d'ailleurs en 2012 une lettre qui avait été signée par 9 directeurs de rédaction de médias audiovisuels, dont le directeur de la rédaction de France Culture de l'époque, Marc Crépin, lettre envoyée au Conseil constitutionnel expliquant effectivement que cette règle, il la considérait comme contre-productive parce que comme il n'arrivait pas à appliquer ces règles comme le leur demandait le CSA, il préférait diminuer, comme vous le dites Elisabeth Pochon, voilà, la place de la politique sur leur antenne.
Voilà. Alors on nous dit les médias font pas, c'est pas aux médias de dire, bien entendu. Mais pour autant, quand on a un temps d'égalité sur un temps moindre à des horaires farfelus, on a quand même moins de temps de présentation de ses idées que sur un temps élargi à une programmation comparable, même avec une équité qui ne tient pas compte de règles qui tiendront que le CSA applique d'ores et déjà.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, Jacques Cheminade?
Il ne s'agit pas d'équité. Un des problèmes des Français, c'est qu'ils ignorent le droit. Contrairement au droit anglais, le droit français ne permet pas au juge de juger en équité. Cela est valable pour tous les domaines du droit. Alors, l'équité a été peut-être peu à peu introduite. Pourquoi l'égalité? Parce que l'équité introduit un effet subjectif d'insécurité juridique. Donc là, on introduit l'équité, qui est là pour corriger les éventuelles injustices de la loi, des décisions qui seraient immorales ou qui seraient contraires au bon sens. Et en droit, l'équité est là pour corriger des inégalités éventuelles entre le faible et le fort, le grand et le petit, pas pour servir le fort et pas pour servir le grand. Et ici, on introduit l'équité pour servir le fort et le grand. C'est le régime des grands partis. De Gaulle dénonçait le régime des partis. Là, on a le régime des grands partis.
C'est-à-dire qu'on comprenne bien, parce que alors, votre parenthèse juridique Cheminade, Jacques Cheminade,
elle est essentielle.
Elle est essentielle, mais pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire l'impact que vous craignez, vous, sur le débat politique. C'est-à-dire, vous dites quoi? S'il y a de l'équité, les médias, par exemple, ne m'inviteront plus si je suis candidat en 2017.
Non, c'est très concrètement. Hein, on introduit un second fil, celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On dit voilà, on jugera la représentativité des candidats, en particulier en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les formations politiques qui les soutiennent et en fonction des indications d'enquête d'opinion. Donc on livre aux enquêtes d'opinion et aux sondeurs l'élection. Bon, moi je veux pas qu'une élection soit livrée à des sondeurs. Et on juge d'après le succès passé des idées sans considérer le succès futur. Je trouve ça particulièrement scandaleux. C'est pas du tout républicain. On juge par rapport au passé, par rapport à l'ancien régime. C'est invraisemblable.
En même temps, pardonnez-moi, mais Jacques Cheminade, juste sur la précédente présidentielle en 2012, avec des règles d'égalité qui duraient sur 5 semaines, votre score était de 0,25% des voix. Donc,
mais les idées ont été là. Et j'ai embarrassé beaucoup les socialistes en défendant le principe de réforme bancaire que Hollande a trahi son discours du Bourget. Et là, ça a circulé partout, et c'est une chose qui est devenue une question fondamentale. Donc une présidentielle, c'est pas gagner nécessairement l'élection, c'est réussir à introduire des idées dans le débat, ce que veulent les maires, qui sont absolument fondamentales.
Stéphane Rosès, principe d'équité versus principe d'égalité.
Et les deux débats, puisqu'on est d'accord pour dire que tout est affaire d'équilibre dans les règles, le débat précédent visait à dire les règles proposées vont permettre plus encore de mettre de côté des candidats fantaisistes au risque d'empêcher des paroles originales mais sérieuses. Bon, dont acte. Là, je suis plus gêné sur la question des médias parce que la présidentielle, c'est une symbolique. C'est une symbolique et à laquelle les Français sont attachés autour de l'idée d'égalité. D'ailleurs, l'idée d'équité, mais je parle sous le contrôle de nos amis, normalement, en tout cas chez Rawls, dans les principes de justice, l'équité, ce sont des règles qui ne sont pas égales, mais normalement pour favoriser ceux qui sont le plus en difficulté. Là, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de partir de ce qu'est un candidat ou une force politique à un point de départ et de fixer d'autres règles qui sont indexées sur la représentation au point de départ de la course présidentielle et des sondages. Mais on le sait, on prend une campagne de sondage, c'est 3-4 moments différents. Il y a des personnes qui évoluent. Et donc, du coup, c'est le CSA qui va être bien en peine de trouver un critère inattaquable déjà sur qu'est-ce qui fait la force politique d'un candidat. Pourquoi? Parce que d'abord, pourquoi la dernière élection? Donc, moi, je suis un ancien sondeur. Ça peut être l'élection de référence, n'est-ce pas? L'ancien sondeur que je suis. Ah, c'est pas seulement l'ancien. D'accord, madame. Effectivement, c'est un débat. Comme ancien dirigeant d'institut de sondage, quand on fait des redressements, il y a est-ce qu'on redresse par rapport aux dernières élections ou aux élections de référence? Premier sujet. Donc, le CSA va être confronté à un débat technique pas évident. Et deuxième sujet, c'est les sondages. On sait bien qu'un candidat peut commencer à 2% et arriver à 7-8%, alors qu'un candidat en début de campagne peut commencer, en termes de sondage, à, je dis n'importe quoi, à 10% pour se retrouver ensuite à 4-5. Donc, j'entends ce qui est dit, c'est-à-dire la difficulté des médias d'assurer l'égalité. Mais je pense que les médias peuvent avoir aussi des garde-fous pour éviter qu'une campagne donne sans cesse la prime et avec la numérisation des médias, c'est un risque, à des candidats qui, monopolise le débat politique par rapport à des positions qui peuvent être des positions démagogiques et populistes, alors que d'autres candidats qui apportent des éléments, je dirais, positifs, eux, se trouveraient dès le départ privés de ce qu'est la logique de l'émotion, alors qu'il est également question, lors d'une présidentielle, de solutions constructives et d'apport au débat démocratique.
Sur cette question des garde-fous, il se trouve qu'il y a 5 ans, un petit peu moins de 5 ans, en janvier 2012, on avait déjà fait une émission qui était assez proche et qu'on avait intitulée « Le contrôle du temps de parole menace-t-il le débat politique ?» Puisqu'à l'époque, il y avait donc cette fronde des directeurs de rédaction de l'audiovisuel qui disaient « Ben voilà, c'est totalement inapplicable ces règles ». Je voudrais vous faire écouter juste un petit extrait d'un dialogue qui avait eu lieu entre Christine Kelly, qui représentait ce soir-là le CSA, et Claude Sérillon, qui quelques jours plus tôt avait publié une tribune, je crois que c'était dans Libération, pour dire « Voilà, ces règles-là sont absurdes ». Et Christine Kelly lui disait « Bah, si on ne met pas de règles, regardez ce qui se passe ».
Aux primaires socialistes, le CSA n'a pas mis de règles. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on n'a pas mis de règles? Dites-moi ce qui s'est passé. Du jamais vu. Une explosion avec le PS qu'on n'a jamais vu. Il y a des radios, je ne citerai pas lesquelles, qui pendant un mois n'ont parlé que du PS, n'ont pas parlé des autres petits partis. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui.
Est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui, c'est un moment dans la vie. C'est quelque chose qui s'équilibre sur l'année. Moi, ça ne me choque pas du tout.
Eh bien, il y a plusieurs partis.
Je pense que si demain,
NPA,
Lutte
Ouvrière, si Front National, etc., qui ont besoin d'exister.
Ans, on verra.
Nous ne sommes pas en Union soviétique. Et on ne peut pas accorder pendant un mois, deux mois, trois mois, uniquement un temps à un seul parti.
Voilà, c'était en janvier 2012, Elisabeth Pochon, vous en pensez quoi?
Oui, mais je crois que c'est... Alors, le CSA a quand même une mission de non-discrimination des candidats. Les critères sont quand même sont quand même des critères de base, ils sont difficiles à mettre en place. Mais je ne crois pas quand même que l'on puisse estimer que tout est fait pour mettre complètement de côté des formations qui deviendraient, enfin qui sortiraient qu'au dernier moment. C'est-à-dire que est-ce que c'est comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Besancenot, est-ce qu'on l'a empêché de parler? Est-ce que des formations comme, comment s'appelle-t-il, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on peut craindre que des candidats comme ça soient étouffés? Je sais bien qu'ils crient tous. J'entends Monsieur Dupont-Aignan depuis 6 jours à l'Assemblée, crier dans tous les sens. Ils ont une audience. Et forcément, le CSA ne peut pas ignorer cette audience-là. Il doit se charger de plusieurs critères d'animation de campagne. Ça paraît subjectif comme ça. Mais il y a des candidats que l'on ne voit jamais, qui ne vont pas produire de documents, d'animation de campagne, de meeting, quoi que ce soit, et qui demandent simplement à pouvoir exposer des idées, simplement sur 3 semaines en temps comparable, sur 3 semaines de temps de présidentiel. C'est quand même un peu compliqué d'essayer d'imaginer qu'on réduit la présidentielle avec juste à ce moment-là un partage d'idées.
Alors, vous faites plutôt en tout cas confiance, on va dire, aux journalistes pour que l'équilibre soit maintenu, même si c'est pas une égalité stricte comme on a pu la connaître lors du dernier scrutin.
Et puis je trouve qu'on parle pas beaucoup de ce que nous avons quand même introduit, qui est quand même le principe d'une programmation comparable, ce qui me paraît quand même être quand même un principe de justice, c'est-à-dire d'avoir des horaires où on peut exprimer ses idées, qui soient pas 3h du matin, 5h du matin, que l'on a demandé que les temps de parole soient publiés hebdomadaires, de façon hebdomadaire sur l'open data du CSA, de façon à ce que, et le CSA dispose quand même de mise en demeure, de mise en garde, qui permettent quand même d'essayer de rétablir, c'est sa mission, c'est ça quand même.
Ah, Jacques Cheminier.
Je dirais deux choses, il faut parler des arrière-pensées. Hein. Mmh. Si les gens qui sont les socialistes au Sénat, ils étaient isolés, il y a eu 109 socialistes, tous les autres ont voté contre ce texte. Un texte d'ailleurs qu'on a présenté aux sénateurs, que l'Assemblée nationale a présenté aux sénateurs, en écartant tous les apports qu'avait apporté auparavant le Sénat. Donc l'entente, la détente, la coopération, les accords en France, tout ça c'est du pipeau, hein. Il faut le dire. d'une part. Ouais. D'autre part, il y a les arrière-pensées.
Mais là, c'est quoi les arrière-pensées?
Les arrière-pensées, c'est que le Parti Socialiste veut pas qu'il y ait beaucoup de petits candidats de gauche pour ne pas être troisième au premier tour. Et que la droite veut qu'il y ait beaucoup de candidats pour que le Parti Socialiste soit troisième au premier tour. Donc il y a ces arrière-pensées qui polluent complètement le débat présidentiel. Et c'est quelque chose qui, pour moi, reflète le pouvoir de cette oligarchie des incapables, comme on l'a dit, d'autres l'ont appelé la caste cannibale, qui actuellement domine la France.
Mais alors cette volonté, si tant est qu'elle existe, Jacques Cheminade, d'avoir un minimum en tout cas de candidats pour permettre aux candidats socialistes d'être au second tour, ça c'est plutôt lié à la réforme des parrainages, mais pas lié à la réforme des temps de parole.
Moi je croirais ceux qui ont présenté cette loi, M. Hervois, et après je vous parlerai de choses que... Monsieur Roy, ça dit à mon égard. Donc, après.
Il vous a pris en exemple au moment de la commission des lois.
Non, mais il a dit d'autres choses 3 ans auparavant.
À 3 ans auparavant. Donc,
Dr. Jekyll et Mr. Hervois, hein. Donc, ce que je dirais là, je croirais ce que présente le Parti Socialiste s'il rétablissait, à partir de la date où le Conseil constitutionnel a choisi les candidats, les a confirmés, s'il rétablissait quelque chose en pouvoir d'achat qui soit égal au million de francs de 1962. Ça serait 1 million d'euros. On ne l'a pas fait. Alors, en plus, on dit que le CSA jugera en fonction de la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral. Ceux qui ont de l'argent peuvent, ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas.
Elisabeth Pochon.
Bon. D'une part, le Sénat a voté contre cette notion d'équité en souhaitant seulement raccourcir de 3 semaines à 2 semaines.
Non, ils ont voté contre toute la texte.
Non, s'il vous plaît, je suis rapporteur, je pense que je peux vous dire. Donc, la proposition qu'il faisait,
c'est que la délibération sur ce sujet.
Alors, laissons poursuivre, Elisabeth.
Donc, ils avaient demandé à ce qu'on raccourcisse la période d'une semaine. Donc, sur le principe, c'était pas le principe qui les dérangeait, parce que si le principe les avait dérangés, ils demandaient le retour à l'égalité totale. Donc, ils demandaient simplement à ce que la période soit plus restreinte. Maintenant, cette loi, elle a été quand même préparée 18 mois avant l'élection présidentielle.
Mais parce que ce qui est reproché aux promoteurs de cette loi, c'est de le faire dans un délai trop court, c'est-à-dire à un peu plus d'un an avant la présidentielle.
18 mois, c'est à peu près un temps pendant lequel, en général, même les précédentes majorités ont apporté, elles aussi, leur concours à ces changements et toujours à peu près dans ces délais. C'est Jean-Jacques Urvoas qui est l'auteur de la loi. C'était lui qui était le rapporteur avant qu'il soit nommé ministre. Et il a consulté tous les groupes. Donc ça n'a pas été fait dans le dos, ça n'a pas été fait de façon comme ça, une PPL qui est arrivée d'un seul coup en disant on va s'en prendre aux candidats. Il n'y a pas de changement de mode de scrutin, il n'y a pas de changement des règles de vote. C'est parti de recommandations qui étaient arrivées d'autorité. Ils se sont dit on va toiletter et faire ces propositions-là. Je comprends qu'elles ne conviennent pas, M. Cheminade. Maintenant, la philosophie derrière ça, c'est pas de vous empêcher de vous exprimer ou d'empêcher les petits candidats de nous exprimer. Vous savez, quand il a fallu passer de 100 à 500 parrainages, je pense que s'il y avait eu une augmentation des 500 parrainages, c'est qu'on avait peut-être estimé que la base des 100 était... Eh bien, il y a eu plus de candidats. En 2002, il y a eu plus de candidats qu'avant, alors qu'il fallait plus de parrainages. Donc, vous voyez, ça ne concorde pas complètement
parce qu'il y avait
avec
parmi
votre...
les maires, un rejet de la classe politique, quelle qu'elle soit.
Bon, Stéphane Rodès, si on devait conclure, et d'ailleurs il faut conclure assez brièvement, mais en tout cas le débat autour de ces nouvelles règles de la présidentielle, ça montre que la présidentielle a encore de beaux jours devant elle, non ?
Oui, bien sûr, parce que selon moi, une présidentielle n'a pas vocation d'abord à élire un président de la République. Sa vocation à réactiver ce que les sa vocation au travers du débat, à réactiver ce que les Français ont à faire ensemble et là où ils vont, dont les candidats sont les acteurs. C'est pour ça que je trouve que la symbolique de l'égalité est quelque chose d'importante, non pas en termes seulement de procédure démocratique, mais autour de l'idée que commence un rite où chacun est situé au même endroit parce que les candidats ne portent pas seulement des intérêts, des histoires, mais ils doivent être, je dirais, pris en charge par le pays dans cette symbolique qu'est le rite laïque présidentiel.
Et comme vous l'imaginez, cette présidentielle, nous aurons l'occasion à de nombreuses reprises d'en reparler, peut-être aussi pour se demander d'ailleurs s'il faut continuer à avoir une élection présidentielle. C'est un petit débat qu'on commence aussi à sentir poindre en ce moment. Merci en tout cas à tous les trois, Elisabeth Pochon, Stéphane Rosès et Jacques Cheminade. On verra bien si mardi prochain cette proposition de loi est votée par l'Assemblée nationale, puisque ce sont les députés qui auront le dernier mot en la matière. Je voudrais remercier toute l'équipe du Grain comme chaque soir, Cyril Baer, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Antoine Tricot, Hugo Florent, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Clément Daté. Demain, la question posée à 18h20 sera la suivante. Les MST ne font-elles plus assez peur?